Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un troisième volet d'entretien dans cette série de la semaine. Vous découvrez depuis le début un frère dominicain, frère Clément Binachon, auteur de ce livre intitulé « L'entraînement et la grâce ». Alors toute cette semaine, on va essayer d'apprendre peut-être ou réapprendre le sens de l'entraînement, le sens de l'effort et au fond, qu'est-ce que la grâce hein. Et quand on parle d'effort, de grâce, on rejoint aussi, et vous en parlez, et je vous salue sans trop parler, aussi l'apôtre Paul. Bonjour frère Clément.
Bonjour Nathalie.
Merci de votre persévérance. Hein. Voilà, vous vous entraînez là cette semaine à la radio. Alors après avoir parlé avec vous de la 16 en général, vous nous conduisez dans cet ouvrage à vivre le carême comme une intensification des efforts spirituels. Pourquoi seulement 40 jours de carême par an? Est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous aider un petit peu à comprendre ce que nous donne la liturgie de l'Église en vivant 40 jours de carême? Qui dit carême dit qu'on intensifie effectivement les efforts au quotidien. Éclairez-nous.
Eh bien, effectivement, le carême, c'est le moment où on intensifie un peu l'effort. Pourquoi 40 jours? C'est la tradition qui a construit ça, évidemment, en se greffant sur ce chiffre des 40, qui est un chiffre symbolique important dans la Bible, les 40 ans des Hébreux au désert, les 40 ans de Jésus lui-même au désert. 40 jours, pardon, de Jésus au désert. J'ai dit 40 ans de Jésus au désert. Donc 40 jours pour se préparer à la mission. Et donc pour nous aussi, on a 40 jours où on se prépare, on s'entraîne. Et je pense que le fait que ce soit un moment limité, c'est aussi ce qui nous aide psychologiquement à nous investir plus fort. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps à fond toute l'année. Et donc d'avoir cycliquement, tous les ans, ce retour du rappel qu'il faut se bouger. C'est une petite cure de détox annuelle, mais qui doit nous servir toute l'année.
Alors oui, puisque vous parlez aussi de ce rituel qui, dans la liturgie, se présente une fois par an, comment éviter que ce carême ne devienne un simple rite extérieur? Au fond, tous les ans, il y a ce temps de carême, ce temps d'effort, mais je peux individuellement rester au fond très extérieur.
L'enjeu, c'est de connecter... Mais justement, mes efforts de carême avec ma vie spirituelle réelle, avec ma vraie vie. Donc, pas être là pour cocher les cases qu'il faut pour être un bon catho, mais choisir mes efforts pour qu'ils se mettent vraiment au service de ma relation avec Dieu.
En vue d'une sanctification personnelle.
En vue d'une sanctification personnelle, en vue de la croissance de la grâce en moi, de son déploiement, que je devienne un meilleur disciple de Jésus.
Que je devienne meilleur, vous l'avez dit, oui, redit, oui. C'est en vue de l'éternité, c'est en vue du salut de l'âme.
Bien sûr, la grâce, c'est Dieu qui se déploie en nous. Mais elle se déploiera pleinement dans l'éternité.
Alors, je rebondis, c'est vous qui avez lancé le cato. C'est quoi un cato, un bon cato, aujourd'hui, dans ce 21e siècle?
Ouais, c'est un mot un peu piégeux, mais...
Vous l'avez dit, donc je rebondis.
Voilà, il faut que je l'emploie maintenant.
Oui, la balle est dans votre camp, frère.
Oui, je dirais que parfois on emploie le mot cato, qui a une petite connotation péjorative, je le confesse. C'est en fait un peu le cliché de celui qui paraît parfaitement catholique extérieurement, mais qui en réalité manque souvent de profondeur. C'est un jugement extérieur, donc c'est un préjugé, parce que dans le monde, dans les cathos, il y a des gens admirables, mais c'est cette identification entre une classe sociale qui est plutôt la moyenne bourgeoisie de province. J'en proviens, donc j'en parle avec beaucoup de liberté, mais... Et donc des choses qui sont un peu de ce milieu social-là et qu'on imagine que c'est ça être chrétien. Et de fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiens admirables, mais c'est aussi un milieu qui a ses limites et qui parfois sont un peu caricaturaux. Et donc, c'est pas simplement ça être chrétien.
Alors, comment vivre ce temps de carême? Alors, on est liturgiquement, c'est vrai, je vous reçois dans cette série et nous ne sommes pas dans cette période du temps de carême. Et pourtant, j'ai choisi de vous recevoir cette semaine, peut-être en vue aussi de vivre autrement et d'entrer plus en profondeur. Hein. Vous avez parlé de profondeur, voilà. Est-ce que je suis un bon catholique, hein, où j'en suis aujourd'hui dans ma pratique? Comment vivre ces temps au fond d'entraînement, ces temps d'effort? Alors on est avec le temps liturgique de carême, sans tomber dans ce qui pourrait être le perfectionnisme. Ou alors aussi.
En fait, effectivement, le perfectionnisme, c'est vouloir cocher toutes les cases, donc jeûner exactement comme il faut jeûner. Et rester sur, enfin perdre de vue la finalité, perdre de vue l'objectif que cet entraînement, donc si on parle des efforts du carême,
oui,
on parle de la prière, du jeûne et de l'aumône,
il est en vue de quoi,
ils sont en vue de la croissance, de l'amour de Dieu en moi. Et donc, si je confonds l'exercice avec sa finalité, bah en fait, je passe à côté de la plaque. Vous voyez, l'entraînement du carême, c'est faire grandir la charité, et donc c'est plus ou moins... ça la fait grandir plus ou moins directement. Quand je fais un effort pour aimer mon prochain, je pose un acte de miséricorde, j'ai l'impression que la charité grandit plus dans ma vie puisque j'ai posé un acte d'amour. Quand je jeûne, c'est moins évident, même si on peut jeûner pour telle ou telle cause. Quand je prie, c'est moins évident aussi. Mais dans tous les cas, ça reste la même finalité. Ces efforts-là visent à faire grandir la vie de Dieu en moi. Et donc, ce qui compte, c'est que cette vie grandisse. Et pas que j'ai bien fait l'exercice. Vous voyez, c'est comme...
Faut dépasser l'exercice.
Il faut que l'exercice soit bien accroché à sa finalité. Et quand il est bien accroché, en fait, il en prend un caractère un peu détendu. On sait que ce n'est pas l'essentiel. On est là pour faire... On s'entraîne, mais on s'entraîne pour autre chose, vous voyez. Et donc, on n'est pas angoissé. Il faut absolument avoir... cocher la case.
Alors, on peut, puis on en connaît, peut-être vous en connaissez, qui sont à cocher toutes les cases. On fait tout bien. On va à la messe tous les jours, on se confesse, on prie peut-être le rosaire, on fait des exercices bibliques, on est formé, voilà. Tout est coché, toutes les cases. Je suis rassurée.
Oui, alors toutes ces choses-là sont
vérifier,
bien.
Est-ce qu'il faut vérifier où j'en suis ?
Mais ce qu'il faut, c'est effectivement... Se dire à quel point tout cela sert la vie divine en moi. Et il m'arrive d'entendre des gens qui font tout bien et qui, en fait, sont assez secs intérieurement. Et donc, à ces personnes-là, qui sont de bonne volonté et qu'il faut encourager, mais il faut leur dire, on peut leur dire, écoutez, jugez votre entraînement. Et si toutes ces cases-là ne vous nourrissent pas, eh bien, peut-être ajustez, faites-en peut-être même un petit peu moins. Mais faites en sorte que... Plutôt que de dire toutes ces prières, vous en dites un peu moins, mais vous prenez le temps de mieux méditer la parole de Dieu aujourd'hui, de mieux la confronter avec votre vie réelle.
Donc vous revenez aussi dans le quotidien ordinaire de la vie.
C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut que notre vie spirituelle se nourrisse de notre vie quotidienne et vienne la vivifier. Jésus, quand on lit l'évangile, nous invite à aimer son prochain. Mon prochain, c'est les gens que je vais rencontrer dans la vraie vie. C'est le type qui m'a exaspéré au volant parce qu'il m'a fait une queue de poisson. C'est mes
voisin.
Enfants, c'est mon voisin. C'est eux les prochains que le Seigneur m'envoie.
C'est mon mari.
Oui, moi bon, j'en ai pas, mais... mais c'est mes frères, ça j'en ai par contre. C'est avec eux que le Seigneur m'invite à faire grandir la charité. Et donc, il faut absolument que ma vie spirituelle soit connectée avec ma vie réelle. Et elle n'est pas très spectaculaire, ma vie réelle. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend.
Alors, qu'est-ce qu'il attend, au fond, le Seigneur, là ?
Il attend de pouvoir partager son amour et faire en sorte qu'on le diffuse. Un chrétien, c'est un petit relais de l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit l'amour du Seigneur dans sa prière, dans ses efforts, et qui le partage autour. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit, et ce n'est pas toujours spectaculaire, hein. Une maman qui reste patiente avec un adolescent insupportable, ça passe pas à la télé, mais c'est génial, c'est magnifique, et l'amour de Dieu passe là-dedans. Ouais.
Quel était le but ? Nous sommes en milieu de semaine, c'est un troisième rendez-vous avec vous. En écrivant ce petit ouvrage, vous ciblez quel type de lecteur ?
Ceux dont on vient de parler, les gens de bonne volonté, qui font des efforts, mais qui en ont un peu perdu le sens, ou qui ont du mal à...
Qui sont découragés, peut-être.
Qui sont un peu découragés, qui sont fatigués, et qui se disent, mais à quoi ça sert? Ou ça fait des années que je me fatigue, ou alors j'arrive plus, j'ai plus le goût. Et donc, pour leur redonner le sens fondamental de ces efforts, et leur dire que ça vaut le coup, et que s'ils sont bien orientés, le Seigneur agira. Il ne faut pas s'inquiéter.
Vous êtes convaincu, donc un encouragement, un soutien aussi sur ce chemin. Voilà.
Oui.
Merci infiniment, frère Clément Binachon. Bien sûr, vous êtes entraîné cette semaine à venir tous les jours. Merci de votre fidélité. Je vous propose, cher frère dominicain, de vous retrouver ici même. Je rappelle que nous sommes dans ce sanctuaire de Lourdes, pas très loin de la grotte Massabielle. Vous êtes allé prier à la grotte Massabielle, frère ?
Ce matin même, j'ai dit la messe. Et c'était une belle grâce.
Une belle grâce. Donc, on emporte tous les auditeurs aussi avec cette belle grâce de Notre-Dame de Lourdes. À demain, même lieu, même heure. Et merci.
À demain.